qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire.
Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous emmène en Chine aujourd'hui pour évoquer les temps troublés des guerres de l'opium. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Ce sont deux auditeurs, Valérie et Kevin, qui chacun de son côté nous avaient suggéré ce sujet d'émission il y a quelque temps déjà. Alors je suis heureux de leur donner satisfaction et d'autant plus que c'est un sujet, vous allez voir, très riche et très, très passionnant. Pour en parler, j'ai invité Rémi Coffer à se joindre à nous. Il vient de publier Le siècle des quatre empereurs chez Perrin. Les quatre empereurs en question sont des personnages contemporains, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong et Deng Xiaoping.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à une question de saison entre Roland-Garros et Wimbledon sur les origines du drôle de comptage de points en vigueur au tennis.
0, 15, 30, 30, 40, effectivement, ça paraît peu logique. En même temps, c'est très anglais tout ça. Finalement, les personnages un peu invisibles de cette émission d'aujourd'hui, ce sont les Britanniques. Je vous donnerai une explication tout à l'heure. Pour le moment, cap sur la Chine au temps des guerres de l'opium.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On a tendance à souvent parler de la guerre de l'opium, mais il serait plus juste de parler des guerres de l'opium, puisqu'il y a eu deux conflits en vérité. Un premier, le principal, je vais m'y attarder, de 1839 à 1842, entre la Chine et le Royaume-Uni, mais aussi une seconde guerre de l'opium de 56 à 60 à laquelle nous participons, nous d'ailleurs, quand je dis nous, la France, mais aussi les États-Unis, la Russie, en plus du Royaume-Uni. Cette seconde guerre de l'opium va culminer, vous savez, avec le sac du Palais d'été dont j'ai eu l'occasion de vous parler ici même à plusieurs reprises déjà. Pour les Chinois et pour les historiens chinois, c'est très important ces guerres de l'opium. On considère aujourd'hui d'une manière générale que l'entrée de la Chine dans la modernité, c'est-à-dire en vérité sa confrontation avec l'univers occidental, c'est précisément 1839. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des contacts, et depuis longtemps. Je ne vais pas revenir sur tous les soubresauts de l'histoire des Occidentaux en Chine. C'est une longue histoire. Les commerçants, notamment, ont été assez entreprenants sur ce plan. Les Portugais ont été les premiers à aborder en Chine en 1514 et un demi-siècle plus tard, ils s'établissent à Macao. Au milieu du XVIIe siècle, à Canton, vous avez déjà pas mal de comptoirs étrangers et le commerce va se développer, va prendre une véritable extension au XVIIIe siècle en Chine. L'empereur, alors quand je dis l'empereur et quand je vais dire dans les minutes qui viennent l'empereur, entendez l'administration chinoise, accepte l'échange avec les Occidentaux que les Chinois appellent barbares tête de chien. Vous savez, il faut dire qu'on arrivait avec des barbes, nous, etc. Donc, pour les Chinois, c'était un peu un signe de barbarie. La France établit aussi son comptoir à Canton, dans lequel on n'en voit pas grand-chose, mais chaque année, un ou deux navires. Alors, évidemment, à côté de tout ça, vous avez ces missions catholiques qui ont joué un rôle très important. Ça justifierait à soi seul une émission, d'ailleurs, hein, cette implantation catholique en Chine. Pour le reste, et sur un plan commercial, ça reste relativement limité. Au milieu du XVIIIe siècle, un édit impérial va carrément mettre un terme à tout ça. Glaciation, si je puis dire. On ferme tous les ports chinois aux étrangers. Quand je dis tous les ports chinois, à l'exception de Canton. L'empereur de Chine nomme 12 gros négociants qu'on va appeler les marchands Hong. Il s'agit du système de Co-Hong, c'est-à-dire littéralement le syndicat, si vous voulez, installé au tout début des années 1720. aux étrangers parqués comme des prisonniers dans les factories de Canton, nous dit Sabine Beauséjour, il ne restait que le droit de se soumettre aux 8 règlements donc édictés par cette administration impériale et de verser de généreux pourboires en signe de gratitude. Parce qu'alors la corruption atteint des sommets dans cette histoire. La particularité, c'est que, si vous voulez, la Chine veut bien avoir de quoi exporter ses produits, mais elle ne veut pas en acheter. Les navires européens partent donc de Chine bien chargés. Vous savez que c'est la grande mode, c'est même la folie des chinoiseries, hein, à l'époque dans toute l'Europe occidentale et notamment en France. Rappelez-vous ce que nous disions l'autre jour sur le goût de Madame de Pompadour au château de Bellevue, par exemple. Hein, ce goût pour les céramiques chinoises, les lacs, les soieries, ces porcelaines, céladons notamment, absolument extraordinaires et dont on était alors incapable de reproduire l'effet en Occident. L'autre grand produit à succès, c'est le thé, du reste. En 1762, l'Angleterre achète pour 2,5 millions de livres de thé et à la fin du XVIIIe siècle, on atteindra les 23 millions de livres. Donc, pour les Anglais, c'est un commerce extrêmement important. Et, évidemment, vous imaginez bien que, puisque nous sommes en Chine, dans un système hyper réglementé et avec des marchands qui bénéficient d'un semi-monopole, la corruption va se développer, la contrebande, le marché noir, avec l'appui des marchands Hong, bien entendu. Il faut dire qu'ils sont eux-mêmes très taxés par l'administration. Alors ils vont se lancer dans tout un trafic clandestin pour gagner un peu d'argent. Et il y a un produit que les Anglais font entrer en Chine de façon particulièrement clandestine, c'est la drogue évidemment, c'est cet opium qui est importé par les Anglais. Cet opium est produit en fait sur la côte est des Indes, comme on dit à l'époque, à Patna. Je parlais de ça avec Catherine Clément tout à l'heure qui me disait qu'il y avait des plantations très importantes à Benares, etc. Et donc les Anglais importent l'opium officiellement à des fins thérapeutiques. Rapidement, on va trouver des consommateurs et des accros, vous imaginez bien. On s'adresse à quand même une certaine catégorie de la population, bien entendu. L'ambassadeur anglais en Chine, Lord McCartney, établit de nombreux contacts avec la haute société chinoise et il en profite pour placer son narcotique à des prix prohibitifs. Le prix néanmoins va aller en diminuant et peu à peu, on va voir l'opium gagner toutes les couches, et Dieu sait que la société chinoise de l'époque est stratifiée, toutes les couches de cette société. On importe quelques 4000 caisses en 1800. Alors, voilà ce qu'écrivent par exemple de hauts fonctionnaires dans leur compte de résultats. Des milliers de fumeurs en proie à des maux sans nombre, disent-ils. Les uns amaigris, épuisés, désormais incapables de se livrer à leurs anciennes occupations, les autres privés de la mémoire, rongés par une mélancolie profonde, à charge à leur famille, à eux-mêmes et appelant la mort à grands cris. Cet opium est devenu la passion chinoise. Les Anglais font de coquets bénéfices, mais en attendant, c'est, en tout cas du point de vue de l'administration, la société elle-même qui est en danger.
Dans le port de Saïgon, est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas le nom. Mais le soir dans notre pont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de grès.
Jacques Dutronc sur Europe 1 avec un court extrait de son titre Opium. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, en Chine, au temps des guerres de l'opium, justement.
Oui, vous avez justement ces navires anglais qui arrivent chargés d'opium, ils arrivent des Indes et ils mouillent clandestinement dans des criques un peu écartées de la côte, bien entendu, avec la corde acide de douaniers qu'on a pris le soin de payer grassement, bien entendu. Et les caisses sont comme ça déchargées, remplies d'opium. Bonnes affaires et bonne conscience, écrit Sabine Beauséjour. La contrebande est officiellement organisée et chacun y trouve son profit. Le marchand anglais accomplit son devoir de bon citoyen en contribuant à l'expansion de son pays. Le mandarin pourvoit à ses besoins et à ceux de la cour. Les gouvernements ferment les yeux. jusqu'aux autorités divines, entendez, chinoises, qui accordent leur protection aux trafiquants, en tout cas officieusement, bien entendu. Le gouvernement anglais est à la recherche de débouchés très importants. Il va mettre fin au monopole de la Compagnie des Indes. Vous savez, la Compagnie des Indes, en l'occurrence orientale, avait le monopole du commerce avec les pays d'Extrême-Orient. Et là, d'un seul coup, il s'agit de développer ce commerce. Donc, on va mettre en place un officier de la couronne, qui s'appelle Lord Napier, qui a pour mission de multiplier les relations avec les autorités chinoises et surtout de faire venir le plus de marchands possible. En 1834, dès qu'il a mis un pied à Canton, ce Lord est accueilli par une délégation de mandarins qui le somme de repartir. Il n'est pas bien vu du tout. On l'appelle l'œil des barbares. Vous voyez, évidemment, le 27 juillet 1834, nous dit Sabine Beauséjour, Lord Napier découvre que ses bagages ont été forcés par les douaniers et quelques jours plus tard, les autorités de Canton refusent de remettre sa lettre officielle à son Excellence le vice-roi sous prétexte que la missive, en gros, ne répond pas aux formes habituelles et obligatoires. Et comme œil des barbares ne semble toujours pas comprendre combien sa présence est indésirable, nous dit-elle, le vice-roi Lou, par mesure d'intimidation, jette l'embargo sur l'ensemble du trafic avec les Anglais. Ça va pas leur plaire longtemps aux Anglais, évidemment, qu'on commence à entraver toutes leurs activités commerciales. Les marchands Hong vont quand même négocier avec l'envoyé de la couronne britannique. On peut pas dire que la rencontre se déroule sous de bons auspices, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça se passe même carrément très mal pour des histoires officiellement de protocole. Les uns veulent s'asseoir à droite, les autres à gauche. Alors parce que vous savez qu'il y a tout un protocole, évidemment. Hein, on n'imagine pas à quel degré de raffinement l'étiquette impériale chinoise avait pu se hisser. Et c'est une étiquette qui est devenue très rigide au fil des siècles. Et en face, vous avez les Anglais qui, eux, ont leurs propres habitudes et qui, notamment, ne veulent pas parler d'eau au portrait de sa gracieuse majesté, n'est-ce pas? Et donc, tout ça se passe assez mal. Lord Napier est obligé de rentrer à Londres pour rendre compte, en quelque sorte, sauf que ses navires, faute de vent, vont longtemps être bloqués à l'entrée de Canton. Il devient, à ce moment-là, une cible facile pour les Chinois. Les Anglais sont obligés de capituler. D'ailleurs, le chef de la délégation va mourir à Macao. Lin Setsu, qui est un mandarin de premier rang, nous dit « Un Anglais laborieusement vil s'est aventuré en amont de Bog, il a pris de peur, il a regagné Macao pour y mourir. Quant aux soldats, ils ne savent se servir ni de leurs poings, ni de leurs sabres. » Vous avez compris qu'il n'y aura pas, quoi qu'il arrive, d'accord diplomatique entre les Anglais et les Chinois. Or, pendant ce temps, l'opium continue à se répandre partout dans la Chine, continue tous ses ravages. Plus de 3000 tonnes d'opium sont maintenant exportées en Chine à la fin des années 1830. L'empereur ne peut pas faire autrement que durcir son attitude à l'égard des exportateurs de drogue. Alors il envoie justement Lin Setsu à Canton en tant que haut commissaire avec pour mission de faire respecter les lois de contingentement qui avaient été passées et qui ne sont pas respectées évidemment par les commerçants britanniques. Lin Setsu à ce moment-là va passer à l'action. Le 18 mars 1839, il exige que les Anglais lui livrent tout l'opium stocké dans leurs entrepôts. Il laisse un petit délai hein, de 3 jours et il envoie des gardes autour des établissements, des entrepôts. Le capitaine Elliot, qui maintenant représente la couronne britannique, accepte de livrer tout l'opium aux Chinois. Ça représente 20 000 caisses d'une valeur de 50 millions de francs or de l'époque. Pour vous montrer qu'on n'est pas du tout sur des considérations anecdotiques. Il s'agit de choses fondamentales. La drogue va être jetée à la mer. On fait toute une cérémonie hein, pour l'occasion. Un homme qui avait été surpris avec un petit peu de drogue dans la main est décapité. Ah oui, c'est comme ça, la Chine de l'époque, on ne rigole pas. D'ailleurs, je dis de l'époque. En tout cas, évidemment, les relations deviennent pour le moins tendues. Lin Setsu interdit maintenant tout trafic avec les étrangers et il s'insurge carrément. Il envoie un courrier à la reine Victoria. « Nous avons appris que dans votre honorable contrée barbare, écrit-il, il est interdit de fumer l'opium. Si l'on en juge l'usage pernicieux, comme le fait d'y exposer les autres, par amour du gain, peut-il se concilier avec les décrets du ciel ?» Alors on attend la réponse de Londres. Pas de réponse officielle. Le Premier ministre, à l'époque, c'est Gladstone, s'élève de son côté contre ce qu'il appelle un trafic infâme. Alors là, c'est toute l'hypocrisie politique, bien entendu. Quant à Palmerston, qui sera lui Premier ministre un petit peu plus tard, il a un tout autre discours. Il craint, dit-il, pour la sécurité future du commerce britannique. Les marchands n'ont plus qu'une idée maintenant. Il faut intervenir, il faut agir et il faut intervenir militairement ou ils vont bientôt avoir gain de cause.
Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur les guerres de l'opium en Chine.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la Chine et à ses guerres de l'opium.
Vous avez bien compris, vous connaissez, vous savez comment fonctionnent les Britanniques. Ils attendent maintenant la moindre occasion d'en découdre. Et d'ailleurs, cette occasion, elle va bientôt arriver. En octobre 1839, un incident met le feu aux poudres. Une bagarre au départ entre marins britanniques et chinois. Et il y a un cantonais qui est tué dans cette bagarre. Alors évidemment, les autorités s'insurgent. Le représentant anglais, donc ce fameux capitaine Elliot, refuse de livrer le coupable aux autorités chinoises. Lui, il dit, le coupable doit passer devant une de nos cours martiales à nous, etc. Ça déplaît beaucoup au haut commissaire chinois, Lin Zetsu. Les Anglais quittent Canton et se réfugient dans la rade de Hong Kong. Les Chinois reçoivent l'ordre d'intercepter toute fourniture et de faire feu sur tout étranger aperçu sur la rive. Donc là, on entre dans une sorte de... ce sont quasiment des monitoires, si je puis dire. En Angleterre, le ton monte. Il y a 3 jours de débat quand même au Parlement et la guerre est décidée. On va l'appeler, c'est la guerre juste, vous savez. Quand on tombe assez vite sous l'extraordinaire pluie d'obus de la flotte anglaise, les Britanniques remontent le long de la côte, ils ravagent les ports, ils pénètrent quand même jusqu'à 100 000 de Pékin. Ça va durer cette guerre, ça va durer 3 ans, de 1839 à 1842. La Chine va, on peut dire, de défaite en défaite. Elle n'est pas capable du tout d'opposer une véritable résistance aux moyens militaires britanniques et elle sera contrainte de signer le célèbre traité de Nankin. Ça nous rappelle les souvenirs d'école. Vous vous rappelez la guerre de l'opium conclue par le traité de Nankin, 29 août 1842. Alors, il se compose de 13 articles assez brefs, ce traité de Nankin, et notamment, il permet aux marchands anglais de s'installer dans 5 ports. Ça va avoir une importance considérable. On va en reparler dans un instant, évidemment, avec mon invité Rémi Coffert. Les Chinois, par ailleurs, cèdent à perpétuité Hong Kong aux Britanniques. C'est important, ça, parce que l'île est un mouillage sûr, commode. Ça va devenir la véritable tête de pont des Britanniques en Chine. Et puis les Anglais obtiennent aussi des taxes fixes et les Chinois acceptent, ça paraît un peu extraordinaire, on va voir ce qu'il faut en penser, acceptent de verser une indemnité pour la production réquisitionnée et détruite, une indemnité de 21 millions de dollars. Donc c'est une défaite cuisante pour la Chine, disons-le. Le traité ne règle en rien le problème des importations britanniques d'opium, qui officiellement, évidemment, sont toujours interdites, hein, restent illicites. Le traité se contente d'évoquer l'espoir de voir cesser la fraude. Eh bien, voyons. Voilà ce que nous dit Matt Eddon du conglomérat un des grands négociants. Le plénipotentiaire a publié une ordonnance virulente contre la fraude, mais je pense qu'à la manière des édits chinois, elle ne signifie rien et est écrite à l'intention des saints qui vivent en Angleterre. Autrement dit, nous, sur place, on n'en tiendra évidemment aucun compte. Alors, qui dit nouveaux ports, nouveaux comptoirs, etc., dit multiplication des débarquements d'opium. Le trafic passe de 40 000 caisses en 1845 à 50 000 en 50. Il y a maintenant 8 millions de fumeurs sur le continent, soit 1/10 de la population de la Chine. C'est considérable. Hein. Là, je crois que maintenant, on peut parler d'un véritable fléau, avec pour épicentre, pour capitale, en quelque sorte, Shanghai. Les entrepôts vont d'ailleurs s'éloigner du centre-ville. On les cache, en quelque sorte, à quelques kilomètres des centres, bien entendu. La France, jusqu'ici, est restée un observateur certes très attentif, mais elle n'était pas partie prenante. Quoique, je vous ai parlé tout à l'heure des premiers comptoirs, il y a la même volonté du côté français, même si nous n'avons pas du tout les mêmes moyens que le commerce britannique à l'époque, il y a la même volonté de s'étendre, d'essayer de gagner de l'influence. Bref, disons les choses, on est en train d'essayer de mettre la Chine à genoux et d'utiliser, de prendre le contrôle de ce gigantesque marché. Et ça va être l'origine de ce qu'on appelle donc la seconde guerre de l'opium, qui elle est déclarée en 1856 et durera jusqu'à 1860. De nouveau, la Chine est vaincue, elle va devoir concéder cette fois l'ouverture de 11 nouveaux ports. Autant dire que le pays est ouvert maintenant au commerce occidental. Le droit de navigation sur le Yangtze, qui est c'est l'artère centrale de la Chine. Ce droit de navigation est accordé aux Occidentaux. La Grande-Bretagne reçoit aussi la péninsule de Kowloon en face de l'île de Hong Kong. Et puis, et ça paraît complètement incroyable, les importations d'opium sont légalisées. Ce trafic, il va se poursuivre très tard, jusqu'à 1908. Alors, quelles sont les conséquences de toutes ces, on va dire, de tous ces déboires chinois et de ces deux conflits? Les guerres de l'opium, nous dit Xavier Paulès, ont moins contraint la Chine à s'ouvrir, puisqu'elle l'était déjà en partie, qu'elles ne l'ont en vérité obligé à fondamentalement reconsidérer la façon dont elle se situait par rapport au reste du monde. Ça, c'est une vision un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est une vision un peu culturaliste et a posteriori. Mais en fait, c'est peut-être vrai que finalement, la Chine a dû se poser à l'égard de ces Occidentaux qui devenaient tellement présents et tellement agressifs, elle a dû se poser des questions, évidemment. Les provinces du Sud, après le traité de Nankin, se trouvent appauvries par la raréfaction de l'argent, par le détournement du commerce de Canton sur Shanghai. L'Angleterre, désormais, étend le commerce de l'opium, qui n'étant plus une contrebande, alors devient un commerce très facile, d'une certaine manière. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'opium constituera 30% des importations chinoises. Chaque ville possède ses fumoirs comme l'Europe ses cafés, nous dit Sabine Beauséjour. Chaque maison particulière contient une pièce somptueusement aménagée où le maître va en toute tranquillité se livrer au pouvoir de la drogue. L'empereur lui-même se retire des journées entières dans son fumoir. Le poison n'épargne personne, ni les riches, ni les pauvres, pas même les enfants de moins de 10 ans. Bonjour Rémi Coffert.
Bonjour.
Finalement, je me disais, parce que votre ouvrage vous porte évidemment sur le 20e siècle, mais je me disais qu'il n'y avait pas de meilleure introduction à cette Chine contemporaine et en rapport immédiat avec l'Occident que ces conflits du 19e siècle. Nous allons y revenir avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire de la guerre de l'opium avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi, et votre invité, Rémi Coffert, écrivain et journaliste, membre du comité éditorial d'Historia, auteur du siècle des quatre empereurs aux éditions Perrin.
Alors, les quatre empereurs en question, je le redis, c'est Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong et bien sûr Deng Xiaoping. Nous allons revenir un bon siècle en arrière pour évoquer les conséquences de ces deux conflits, ces guerres de l'opium. Peut-être avant tout, Rémi Coffert, faut-il revenir encore une fois, rappeler l'importance de ce trafic de l'opium considérable.
Oui, parce que bon, le motif, c'est un motif de bas business, c'est-à-dire que les comptes à l'origine de la compagnie des Indes orientales dont vous avez mentionné l'existence tout à l'heure ne sont pas équilibrés et il faut trouver un produit d'appel, un produit qui permette d'équilibrer les comptes, donc ça va être l'opium. Donc ça commence effectivement par des trafics, des piratages et on...
Les Anglais font produire cet opium en Inde, ils récupèrent ça en Inde, ça fait pas un immense trajet puisqu'on est sur la rive des Indes hein, et puis ils viennent le vendre plus ou moins clandestinement dans un premier temps, en Chine. Oui. Ce qui paraît extraordinaire, c'est qu'à partir de 1860, à partir de la conclusion de la deuxième guerre de l'opium, c'est un commerce qui devient officiel.
Oui, le premier traité, le traité de Nankin ne spécifie rien quant à l'opium, c'était un traité commercial général, mais effectivement le second traité de Tianjin, si mes souvenirs sont exacts, mentionne explicitement l'opium. Alors maintenant, ça devient un business légal, c'est-à-dire que l'Occident a réussi à s'ouvrir de force un marché en Chine. Rappelez-vous que 7 années auparavant, c'est en 1853 je crois, le Commodore Perry est venu au nom de l'US Navy ouvrir de force le marché japonais à coups de canon. Donc il y a quelque chose, c'est des méthodes commerciales, disons, très très agressives.
C'est-à-dire que pour les commerçants britanniques d'abord, mais occidentaux d'une manière générale, et même américains, vous nous le dites, pour ce commerce en pleine expansion, qui d'ailleurs est en train de se réformer sur un mode colonial, hein, c'est très important, ça joue un rôle essentiel pour ce qui est des circuits d'approvisionnement, etc. Il paraît anormal que des pays développés, puissants, extrêmement peuplés comme le Japon ou bien sûr a fortiori la Chine, ne soient pas des marchés en fait. Donc puisque ces pays se ferment, eh ben on va les ouvrir de force, c'est ça l'idée.
Exactement, oui.
On ouvre l'huître en quelque sorte.
Par la pression militaire et sans la moindre vergogne, sans le moindre complexe. Enfin, on fait ça,
personne.
Ça y est, bon, il y a du business à faire, nous arrivons. Les Anglais font ça, entre guillemets, plus élégamment que les Américains. Et nous, on essaye aussi de faire plus élégant, mais enfin, c'est des méthodes de pirates dans tous les cas. Hein.
Oui, et justement, pour revenir à ce sac du Palais d'été qui est un symbole, bien entendu, on voit que l'élégance avait ses limites,
bah,
naturellement.
Ouais, parce qu'effectivement, vous savez, pour la Chine, ce sont des blessures d'amour propre qui vont être très lentes à se refermer. Je dirais même qu'aujourd'hui encore, elles ne sont toujours pas refermées, les plaies. Alors, bon, imaginez, l'Occident de force impose la présence de concessions dans les ports et puis même après à l'intérieur.
Et de plus en plus de ports.
De plus en plus, voilà. Les Allemands aussi auront leurs concessions, ils auront Tsingtao. Ces concessions, bon, imaginez qu'en France, eh bien, Marseille soit aux États-Unis, Nantes soit à l'Allemagne, Dunkerque à la Belgique, c'est pas très loin, Le Havre à la Grande-Bretagne, c'est à côté, et de force avec un privilège d'extraterritorialité, vous l'avez mentionné dans le premier cas, mais ça veut dire que dans ces concessions qui sont des villes à l'intérieur de l'État chinois, à Shanghai par exemple. Shanghai, il y a deux concessions, ils ont la double peine. Il y a la concession française qui est la taille d'une ville comme Bordeaux, et le Saint-Helmut, la concession internationale, qui est un peu plus petite. Et là-dedans, si un citoyen français ou un citoyen des États-Unis ou un sujet de Sa Majesté britannique commet un crime,
il relève de la
même dans la ville chinoise, la justice chinoise n'a pas le droit d'aller le chercher dans la concession. Donc pour l'amour propre, n'oubliez pas que peu avant, les Chinois s'estimaient le centre du monde. Et tout d'un coup, ils découvrent, c'est comme une fissure dans un mur, ces guerres de l'opium révèlent tout d'un coup l'incroyable faiblesse de la Chine, qui était cachée parce qu'il y avait du lierre par-dessus, on voyait pas que la fissure était en train de s'agrandir, et tout d'un coup, boum, il y a un pan du mur qui s'abat.
L'apogée de l'Empire du Milieu, c'est la fin du XVIIe, le XVIIIe siècle, donc on est encore très près d'une époque où effectivement la Chine, se sentant invincible, considérait être l'univers à elle toute seule, en quelque sorte. Et donc là, d'un seul coup, il y a cette concurrence, en plus une concurrence qui est d'autant plus mal vécu, j'imagine, que les Chinois sont des commerçants dans l'âme, eux aussi, bien entendu.
Sûr. Hein. Bien sûr, et ils comprennent bien qu'ils sont en train de se faire rouler parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'opposer à cette espèce de spoliation.
Alors ils ont les moyens très indirects par le biais de cette incroyable corruption qui depuis longtemps gangrène l'Empire chinois.
Oui, évidemment, c'est la maladie qui est en train d'infecter totalement le régime. Si vous voulez, la dynastie Qing, qui est la dernière dynastie, qui sera la dernière dynastie impériale chinoise avant qu'apparaisse la dynastie rouge actuelle, qui est une dynastie collective. La dynastie Qing a eu sa période, depuis le milieu du XVIIe siècle, elle a eu sa période montante, et maintenant elle est dans sa période descendante, c'est-à-dire que tout pourrit. Et ce ne sont pas des Chinois d'origine, ce sont des Mandchous. Enfin, la Mandchourie est chinoise, mais ce sont des Mandchous. Ils ont été vécus comme des étrangers, comme une dynastie étrangère. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir toute une forme de un mélange de nationalisme et de xénophobie aussi qui va affecter cette dynastie au fur et à mesure de son effondrement. Après, vous aurez la fameuse guerre des boxers en 1900, c'est-à-dire la société des points levés d'équité et de justice, qui est une énorme société secrète, à la fois xénophobe, qui veut chasser les étrangers, qui a comme premier slogan « Chassons les Qing », et qui met le siège devant les légations occidentales à Pékin. Et à ce moment-là, la cour Tsui, la fameuse impératrice douairière, se retourne, prend secrètement position en faveur des boxers qui, immédiatement annule le slogan en versant les Tsing. Donc c'est uniquement chassons les étrangers, nouvelle expédition militaire occidentale et japonaise, nouvelle humiliation pour la Chine.
J'en ai dit un mot de cette xénophobie rampante de la Chine de l'époque. Quand on parle donc des Européens, on parle des barbares à tête de chien, etc. On voit le traitement infligé aux représentants des États européens. Hein. C'est assez humiliant d'une certaine manière.
On dit aussi les diables au long nez aussi, oui, enfin, etc. Et d'autres gracieusetés du même genre. Oui.
Et alors, on a l'impression que les Occidentaux vont se venger et que c'est pire encore, parce qu'il y a une forme d'humiliation de la Chine à l'issue de l'une, puis de la deuxième guerre de l'opium. On met le pays plus bas que terre, quand même.
C'est-à-dire il y a l'arrogance du vainqueur. On a gagné, on écrase le vaincu, on n'y met même pas les formes et on se rend pas compte qu'évidemment un peuple qui a une histoire millénaire comme le peuple chinois peut difficilement tolérer longtemps cette présence étrangère. Et tout l'effort... l'Empire s'est discrédité parce qu'il a dû accepter ces traités inégaux, il a dû accepter un nouveau traité inégal après l'écrasement de la révolte des Boxers, et évidemment ces jours sont comptés.
L'Empereur est discrédité dans cette affaire, sans parler évidemment du rôle tout à fait concret de l'opium, qui est déliquescent naturellement, qui est délétère, je veux dire.
Bien sûr, ça pourrit de l'intérieur les élites chinoises. Certains lettrés se posent le problème de la modernisation, mais évidemment ils sont isolés. Il y a toute cette espèce de bureaucratie céleste avec ses étages, ses niveaux, ses degrés, etc., qui s'empêche, qui est contraire à toute évolution. L'Empire, ses jours sont comptés. C'est là qu'apparaissent le premier de mes quatre empereurs républicains, Sun Yat-sen.
Voilà. Exactement. Alors nous y venons justement aux conséquences plus récentes de tout cela avec vous, Rémi Coffert, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
De l'histoire cet après-midi de la guerre de l'opium avec vous Franck Ferrand et votre invité Rémi Coffert, écrivain et journaliste, membre du comité éditorial d'Historia, auteur d'un siècle des quatre empereurs aux éditions Perrin.
Alors évidemment, toutes ces défaites militaires, ces humiliations diplomatiques, ce recul commercial et économique, cette déliquescence de la société chinoise liée à l'opium et l'effondrement d'une administration millénaire, celle d'un empire qui jusqu'alors tenait d'une main de fer et d'acier l'immensité de la population de cette Chine, tout ça contribue naturellement à la montée de nouveaux mouvements, des mouvements nationalistes. On va y venir dans un instant à travers vos personnages, Rémi Coffert. Est-ce qu'on peut dire que les traités qui ont mis fin aux deux guerres de l'opium portaient en germe l'effondrement de l'Empire millénaire?
C'est le premier choc. Vous aurez un choc interne aussi qui est moins connu, mais qui est la guerre des Taiping, la grande révolte des Taiping.
Il faut expliquer en deux mots ça.
Alors c'est entre 1851 et 1864, ce sont les rebelles aux longs cheveux, se révoltent contre l'Empire pour créer un autre Empire.
Le pouvoir étant perçu comme moins fort, d'un seul coup des rebelles apparaissent.
Exactement, mais des rebelles puissants qui vont former des armées écrasant les armées impériales. Et au nom... de Jésus-Christ, figurez-vous, parce que leur leader Hong a été élevé en partie par des pasteurs protestants, parce que vous avez cité les catholiques, il y a aussi les pasteurs protestants.
Oui, il y a les protestants aussi d'ailleurs, oui, bien sûr.
Et à partir de ce moment-là, pendant toutes ces années, ils vont faire de Nankin la capitale céleste de la Chine. Ça va finir dans des flots de sang parce que l'Empire contre-attaque, si je puis dire, et finit par écraser à son tour les Taiping, qui sont divisés entre eux des luttes de clans. Donc, la saignée externe, si je puis dire, causée par l'arrivée des Occidentaux, et la saignée interne de la révolte des Taiping, et l'ultime échec qui sera la révolte des Boxers, font que l'énorme mécanique impériale n'embraye plus sur rien du tout.
Puis on a l'impression que les points névralgiques du pays sont aux mains justement des Occidentaux, à commencer par cette plateforme d'Hong Kong dont je parlais.
Hong Kong et Shanghai aussi.
Shanghai, bien sûr,
qui est très, très grande ville. Alors Hong Kong, les Anglais ont réussi, si mes souvenirs sont exacts, c'est le premier traité inégal, celui de Nankin. Ils se le sont fait accorder à perpétuité, Hong Kong. Et vous avez mentionné après Kowloon, qui pour compléter, et Hong Kong restera la dernière colonie occidentale en Chine, puisqu'elle ne sera rétrocédée à la Chine qu'en 1997, donc un siècle et demi après.
Est-ce que le trafic de l'opium, pour en finir avec cette histoire d'opium, a été un jour définitivement arrêté? Est-ce que oui ou non, on y est arrivé?
Eh bien non, malheureusement non. D'abord parce que la consommation de cette drogue était devenue une habitude, vous l'avez signalé tout à l'heure, contaminant la société chinoise, y compris dans ses plus hautes sphères. Donc ça c'est le premier élément, tout le monde y a pris goût et malheureusement...
Ce sont des habitudes qui sont ancrées
comme,
en
voilà,
fait.
Voilà, comme toutes les drogues, eh bien on prend goût. Et le second élément c'est que, là on se projette plus tard, pendant la longue guerre civile qui va opposer les communistes aux nationalistes de Chiang Kai-shek, donc au Kuomintang, eh bien chacun des deux camps, tout en protestant de sa pureté et avec l'intention sérieuse de régler après le problème de la drogue, va s'appuyer là-dessus pour ses finances. Alors le Kuomintang fait du trafic de drogue avec l'idée extraordinaire, un personnage que je mentionne, que je détaille un peu dans ce livre, c'est des quatre empereurs, qui est le personnage de Tu Yusheng, Tous les grandes oreilles. C'est le caïd, il est devenu le caïd de la drogue à Shanghai, et c'est lui que Chiang Kai-shek va introniser commissaire chargé de réprimer le trafic de drogue. Donc évidemment,
c'est un peu un con,
ça risque pas de se produire. Et de leur côté, les communistes de Mao Tse-tung font aussi du trafic de drogue avec des explications. C'est du trafic révolutionnaire, ils n'appellent pas ça trafic, c'est du commerce révolutionnaire. Enfin, il y a toujours une justification idéologique. Là où ça commencera vraiment à cesser, c'est après 49 et l'instauration de la République populaire de Chine, parce que le régime est totalitaire et il est tellement répressif que, évidemment, là, les trafiquants de drogue, mon fameux Tu Yusheng a filé à Hong Kong où il mourra en 1951, enfin... tout ça, si vous voulez, est aboli, comme sont abolies aussi les libertés individuelles des Chinois. Donc, dans ces conditions-là, acheter et consommer de la drogue devient plus que difficile.
La prise de pouvoir par Mao aurait-elle été possible sans l'aide indirecte de l'opium, demande Patrick. Peut-être aurait-elle été possible, mais moins facile, avait l'air, nous dites-vous. Hein.
Oui et non, parce que comme le Kuomintang aussi faisait du trafic de drogue, on peut considérer que ça s'annulait.
Alors, cet empire s'effondre, on a bien compris qu'il est, vraiment complètement déliquescent, et se manifestent des mouvements nationalistes qui ont pour principal, pour premier objectif, d'achever la dynastie Tsing.
Chassons les Tsing.
Ben, c'est ça, vraiment.
Tout à fait. Et alors, ce sont au début, c'est plutôt des sociétés secrètes qui rencontrent les sociétés secrètes mafieuses aussi, parce que les sociétés secrètes anti-Tsing deviennent parfois, comme la bande verte de mon Tu Yusheng, là, mon, avec des guillemets au mont.
Ah mais on vous le laisse.
Oui, mais je ne le prends pas. Et ces sociétés secrètes à l'origine anti-Tsing, la bande rouge aussi, enfin, etc., deviennent en partie des sociétés mafieuses, des gangs. Donc vous avez une interpénétration. Mon premier empereur, là, Sun Yat-sen, est un homme de société secrète, pas un homme de trafic. C'est pas un trafiquant de drogue, mais c'est un homme de société secrète, de coups de force, de coups d'État, de tentatives de coups d'État qui manque. Je commence le livre là-dessus sur la tentative d'enlèvement dont il est victime en 1896 à Londres, où il manque de laisser la peau. Il est sauvé par ses amis pasteurs protestants qui font une campagne de presse pour exiger sa libération. Sinon, il allait être étranglé ou décapité. Très certainement. Et ce personnage va conclure des alliances avec tout le monde. Alors, du moment que c'est contre les Tsing, il est prêt à toutes les alliances. Alors, il y aura l'alliance japonaise. Il va faire des propositions, je détaille là-dessus, des propositions à la France. Il va offrir le Yunnan, qui est la province frontalière de l'Indochine.
Qui nous intéresse pour l'Indochine.
À l'époque française, bien sûr. Il va proposer aussi aux Américains. D'ailleurs, quand éclate la révolution du double 10 qui va conduire à la fin de l'Empire, il est aux États-Unis.
1911, là,
voilà,
c'est ça.
1911, 10 octobre 1911. Il est aux États-Unis en train de faire du fundraising, comme on dit, comme tous les révolutionnaires. père, il est jamais là quand la révolution se produit. Et il propose, au final, ça va être l'alliance russe. Alors après toutes ces alliances, eh ben, il va aussi essayer l'alliance russe et ça finira par cette tentative à partir de 1923. Jusqu'à 1927, l'épisode dont Malraux s'est inspiré pour écrire son roman La Condition humaine, c'est-à-dire le retournement de Chiang Kai-shek, qui est un élève de Sun Yat-sen, qui après la mort de Sun Yat-sen va vouloir prendre le levier de commande du Kuomintang et qui en 1927 se retourne contre les alliés communistes, dont certains sont célèbres, il y a Chou Enlai notamment, et il va les écraser et les exterminer.
Il faut revenir sur ces deux personnalités pour que nos auditeurs les visualise d'une certaine manière. Déjà, physiquement, ils sont bien différents, Sun Yat-sen et Chiang Kai-shek. Hein.
Alors, Sun Yat-sen vient d'une classe sociale très, très pauvre, hein, famille très pauvre, père colporteur, pêcheur, petit boulot. Oui. Son intelligence a été repérée par les pasteurs protestants qui vont en faire un médecin. Il est docteur, Sun Yat-sen, il n'exercera jamais beaucoup. Il est né en 1866. Chiang Kai-shek, lui, est d'un mental différent. C'est une famille de plus classe moyenne. Et il est officier. Il est officier, il a été éduqué comme officier au Japon, dans les écoles militaires, il est officier d'artillerie, dans les écoles militaires japonaises. Il voudra longtemps une énorme admiration, comme son maître Sun Yat-sen, aux Japonais, qui considèrent comme des maîtres ceux qui vont enfin ouvrir la Chine à la modernisation. Le problème, c'est que il aura affronté des terribles agressions japonaises contre la Chine. Donc, il sera obligé de se battre contre ses maîtres.
C'est assez francophile, Chiang Kai-shek, par ailleurs. On peut dire ça?
Pas francophile, pas vraiment, mais il détestait surtout la Grande-Bretagne.
Oui, voilà,
il
haïssait
la Grande-Bretagne, qui était la puissance impérialiste pour lui. Et il avait une relative sympathie pour les États-Unis, d'autant que sa femme, Sun Meiling, bon, la famille des Sung, c'est tout un poème, parce que il y aura deux sœurs Sung. Sun Qingling épousera Sun Yat-sen, et le premier empereur, et Sun Meiling épousera Chiang Kai-shek, le deuxième. C'est-à-dire que c'est une famille qui appelait une dynastie à un destin extraordinaire, et toutes les filles avaient été élevées aux États-Unis par les couramment anglais. Donc le lobbyisme auprès des Américains était fait par madame Chiang Kai-shek.
Chiang Kai-shek, et ça va être utile, ça, évidemment, dans la lutte aussi contre les communistes. Alors, ce qui est très étrange, c'est que Chiang Kai-shek, leader très nationaliste, vous nous l'avez dit, anti-impérialiste occidental, va finir par s'allier avec les Occidentaux dans cette affaire.
Il va être appuyé par les États-Unis au nom de la lutte anticommuniste. Alors, à partir de 1927, il rentre dans une longue guerre civile avec les communistes, qui va contraindre les communistes à faire cette fameuse longue marche, c'est-à-dire aller du sud de la Chine vers le nord de la Chine, où ils se réfugieront. Ils seront sauvés in extremis parce que les Japonais attaquent la Chine à ce moment-là. Et chez les communistes, après de forts heurts de personnalité, il y a un personnage qui apparaît, qui est Mao Tse-tung. Mao a joué un petit rôle dans la révolution du double 10, et puis par la suite il est devenu communiste, membre fondateur du Parti communiste en 1921 à Shanghai. Et à l'occasion de cette longue guerre qui va prendre surtout une forme rurale une fois que les communistes sont écrasés dans les villes, il va théoriser l'encerclement des villes par les campagnes, et il va profiter de la longue marche, au milieu de la longue marche, et à la fin de la longue marche, qui devient le vrai patron du Parti communiste chinois, qui ne sera plus jamais sérieusement contesté.
Tout ça va aboutir à la partition de la Chine. Alors un cheval, une alouette, évidemment, puisque les nationalistes autour de Chiang Kai-shek se retrouvent dans la petite île de Taïwan, de Formose.
Quand ils perdent la guerre civile, oui, et Chiang Kai-shek et son fils adoptif sont effectivement contraints de se réfugier. Alors, vous imaginez un géant comme Chiang Kai-shek qui tourne comme un ours en cage dans cette petite île en espérant une seule chose, récupérer le continent, mais il l'a perdu au nom d'un autre géant qui est Mao Tse-tung, appuyé par un personnage qui, le petit Deng Xiaoping, qui commence sa carrière très jeune parce qu'il devient communiste en France. C'est en France qu'il va devenir communiste. Il crée pratiquement avec Zhou Enlai et un certain nombre d'autres le Parti communiste chinois en France et gardera toujours une certaine nostalgie de cette époque. Il a 17 ans, 18 ans, 19 ans à l'époque.
Il mourra juste avant la rétrocession par l'Angleterre d'Hong Kong, justement.
Oui, et
ça
sera un des grands malheurs de sa vie, c'est qu'il n'aura pas vu le retour de Hong Kong à la mère patrie.
Merci beaucoup Rémi Koffer. C'était un survol sur la fin, et d'ailleurs j'admire la façon dont vous nous avez parlé tout de même de vos quatre empereurs, y compris Deng Xiaoping, qui est quand même assez éloigné des guerres de l'opium. Quoique, d'une certaine manière, tout ça est lié, vous nous l'avez montré.
Tout ça est lié, vous avez raison.
Le siècle des quatre empereurs, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong et Deng Xiaoping, de Rémy Koffer, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Valérie sur les origines du comptage de points au tennis.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Valérie, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître l'origine du système de comptabilisation des points, je vais y arriver, lors d'un match de tennis.
Alors, pour tout vous dire, je n'en savais rien du tout. Donc, j'ai demandé à Caroline, dans notre équipe, de m'aider, d'éclairer un peu ma lanterne. Et alors, voilà le résultat, c'est assez étonnant. Ça vient, cette façon de compter, ça vient du jeu de paume. Bon, jusque-là, évidemment, ça n'a rien de très surprenant. On se doute bien que le tennis est l'héritier direct du jeu de paume. Mais alors, là où ça devient plus intéressant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, dans le jeu de paume, on comptait comme ça, par 15, 30, 40, etc. Alors, il y a plusieurs possibilités. On dit que ça pourrait être lié à des paris, vous savez, à des jeux d'argent. Depuis le Moyen-Âge, les spectateurs avaient pour coutume de parier sur un modèle sexagésimal, c'est-à-dire un modèle de numérotation qui utilise une base 60. Par exemple, le double d'or valait 60 sous et le denier d'or, 15 sous. Donc, les joueurs auraient pris l'habitude de... puisqu'ils pariaient comme ça en base 60, de miser 15, 30, 40. Plus probablement, alors il y a aussi une hypothèse qui nous dit que ce serait pour des raisons morales, que chaque joueur, à chaque fois qu'il marque un point, voit pour des raisons morales, parce qu'il est, considéré comme injuste, hein, c'est le flamand Jan van Berg qui avait émis cette hypothèse, chaque joueur voit son gain multiplié par 15. Mais il y a une explication beaucoup plus plausible, c'est celle que retiennent aujourd'hui la plupart des historiens. On dit, il semblerait en effet, que lorsque le joueur gagnait un point au jeu de paume, il avançait de 15 pieds pour arriver jusqu'à 60 pieds, qui était la longueur totale du terrain. Il remportait ainsi le jeu. Et donc, avec ce mode de comptabilisation, on devrait dire non pas 40-15, mais 45-15, puisque 45 plus 15, ça fait 60 pieds, puis 45-30, etc. Et ça paraît évidemment assez plausible quand même, parce que ça correspond exactement à la forme du terrain de jeu de paume et au mode de comptabilisation des points à la paume. Voilà à peu près d'où semble venir cette façon de parler au tennis.